Dum dum da dum, dum dum da dum.
Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour, informer, orienter, échanger, tout cela en allant au-devant de nos concitoyens ligériens, c'est le but de deux structures départementales que nous allons évoquer aujourd'hui dans ce numéro de mai de Loire Mag, le podcast. Il s'agit d'abord de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire, qui va créer très prochainement des comités d'usagers experts. Nous entendrons à ce sujet Annick Brunel, maire de Saint-Romain-le-Puy et conseillère départementale spéciale chargée de l'autonomie. Pour compléter ce dossier, nous vous proposerons aussi le témoignage émouvant d'Émilie Thermot, elle-même en situation de handicap et engagée dans la démarche pour devenir usager expert. Autre nouveauté 2022, initiée cette fois par l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, en l'occurrence dans d'autres départements de la Loire, avec l'aide de la CAF et du département, cette nouveauté, c'est la Maison des familles itinérantes. Nous monterons dans le bus qui sillonne le sud de la Loire. Et puis nous finirons en nous déplaçant encore, mais cette fois à cheval, ou du moins en découvrant un artisanat devenu rare en France, la sellerie sur mesure, aussi bien pour les sportifs de haut niveau comme pour des personnes handicapées. Nous serons dans les ateliers de la manufacture Childéric.
Loire Mag, le dossier.
Ce mois de mai, dans le magazine du Conseil départemental, vous allez voir apparaître une initiative qui sera la cinquième en France, en tout cas le cinquième département en France est en capacité aujourd'hui de faire cette proposition, à savoir celle d'un comité d'usagers experts. On va revenir sur cette initiative avec Annick Brunel, maire de Saint-Romain-le-Puy et conseillère départementale déléguée au handicap. Annick Brunel, bonjour.
Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous, surtout avec RCF.
Cette initiative... Elle est liée, bien sûr, à l'existence dans le département de la MDPH, la Maison départementale de la personne handicapée, qui est un peu, j'ai sous les yeux un schéma fort bien fait d'une sorte de ville. Au cœur de cette ville se trouve non pas la mairie ou la gare, mais la MDPH comme une sorte de phare. À quoi sert la MDPH, Annick Brunel ?
La MDPH est là comme un phare, comme vous le disiez si bien, pour être à l'écoute des usagers, de tous les usagers qui sont en situation de handicap.
C'est un guichet unique, c'est ça aussi qui est très important.
Oui, pour aller souvent à la MDPH, c'est vraiment un accueil journalier avec un passage très important de personnes qui viennent parce qu'elles ont des difficultés à remplir leur dossier, parce qu'elles ne savent pas comment s'orienter, qui voir. Et là, l'accueil de la MDPH est là pour renseigner les gens, tout simplement. C'est un lieu d'écoute très convivial. Les gens s'assoient, prennent le temps de discuter. Je pense que la MDPH, il me semble que c'est dans la Loire un lieu encore ouvert au public, ce qui n'est pas le cas pour certains services.
Autre ouverture nouvelle qui va être annoncée justement notamment dans ce Loire Magazine qui paraît ce mois de mai, Annick Brunel, c'est la création d'un comité d'usagers experts. Qui sont-ils ces usagers experts et qui peut y prétendre ?
Alors toutes les personnes en situation de handicap et les associations ont été sollicitées pour justement nous proposer un candidat. Je pense que c'est un plus pour la MDPH. Pour encore améliorer notre aide au niveau des usagers, bien sûr. Et puis, comme il y a eu précédemment toutes ces associations qui ont été autour de la MDPH pour faire évoluer les choses, eh bien, je pense que ces usagers experts vont nous aider à améliorer les services de la MDPH.
On imagine que du coup, ils vont être consultés sur des projets que vous pouvez avoir. Est-ce que ça va être aussi des gens qui pourront eux-mêmes accueillir, par exemple, des personnes en situation de handicap ?
Alors, je pense qu'ils ne seront peut-être pas tout seuls, ils seront accompagnés, mais pourquoi pas, oui. Pourquoi pas dans un deuxième temps, oui. Je pense qu'un jeune en situation de handicap rencontre un autre jeune qui a le même handicap, vont pouvoir discuter ensemble, peut-être aider dans le sens de retrouver un lien social. Il y a plein de choses qui peuvent se découler de cette rencontre d'usagers experts.
L'une des difficultés, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est parfois le remplissage des dossiers. Est-ce que ça pourrait aller jusque-là, cette aide qui finalement serait un lien plus fort entre les personnes en situation de handicap et l'administration.
Bien sûr, je pense que oui, on va avoir un conseiller numérique aussi qui va être là pour aider les gens, mais pourquoi pas ces usagers experts qui seront en lien avec les associations, hein, de toute façon, pourront aider les personnes à remplir les dossiers, bien sûr, évidemment.
Alors, comment ça va se passer? C'est déjà ouvert parce qu'il y a candidature. Si on est expert, c'est qu'on a été reconnu comme tel.
Oui, et puis c'est sur la base du volontariat aussi, puisque ça sera du bénévolat. Après, il y aura les frais de déplacement qui seront pris en compte, mais c'est sur la base du volontariat. Donc, il faut candidater, mais c'est auprès des associations. On a sollicité les associations qui vont nous proposer des candidats.
Les choses vont être mises en place et démarrer véritablement à quelle période à peu près, Annick Brunel?
Courant juin, les candidats, et après on va attendre les vacances pour repartir sur peut-être octobre peut-être plus précisément.
Cette initiative dont je disais en commençant qu'elle est rare en France, puisque c'est le 5e département, elle vous paraît essentielle sans doute? Mais pour quelle raison?
Je pense que de toute façon, qui est le mieux placé pour parler du handicap? C'est la personne handicapée elle-même, quand elle peut, bien sûr. Je crois que c'est ça aussi. C'est bien de faire évoluer notre MDPH d'une démocratie sociale, avec, dans un premier temps, les associations qui ont été là pour œuvrer pour la création de cette MDPH et la faire vivre. Aujourd'hui, il faut aller un pas plus loin, c'est-à-dire de faire entrer les usagers experts dans la MDPH.
Des personnes qui ont une expertise parce qu'elles sont elles-mêmes handicapées, c'est une reconnaissance, justement, qui motive profondément Émilie Thermot et les candidates pour faire partie des usagers experts évoqués à l'instant par Annick Brunel. Depuis son plus jeune âge, sa famille et elle ont été des familiers de la MDPH. Émilie Thermot.
Loire Mag, visage de la Loire.
Moi, j'ai un handicap congénital, donc... Les premières années, c'est mes parents qui étaient en charge de toute cette partie administrative et cette partie prise en charge. Après, j'ai voulu assez rapidement être autonome dans ma vie de femme. Donc, j'ai sollicité quelquefois la MDPH par rapport à déjà du conseil, des renseignements. Ils ont une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement. Voilà, pour moi, c'était essentiel de pouvoir échanger avec eux quand j'en avais besoin.
Alors, évidemment, si on se tourne vers cet organisme, c'est parce qu'il y a entre autres des dossiers administratifs à faire pour pouvoir être aidé, par exemple, financièrement, mais pas seulement. Ça a été votre cas?
Oui. Donc moi, j'ai fait différentes procédures avec la MDPH et ils ont toujours répondu présent.
Parce que c'est ce qui peut faire peur, déjà, à n'importe qui, quand il y a des démarches administratives.
Oui, le mot administratif, très souvent, il fait peur. Et en situation de handicap... On a l'impression qu'on remplit des fiches, et on n'en voit pas forcément toujours le bénéfice sur le moment, sur l'instant T. Mais voilà, ça fait partie de la procédure.
Et on peut dire que par rapport à votre quotidien, vous avez toujours pu trouver une réponse ou bien il y a encore des choses qui manquent dans le domaine dont peut-être la MDPH est consciente, mais auquel, pour le moment, elle ne peut pas encore faire face toute seule.
Oui, c'est pour ça que j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir les rencontrer et de parler du comité usager et du comité usager expert.
Qu'est-ce que c'est qui peut manquer aujourd'hui, justement?
De la communication. Par exemple, là, ils souhaitent mettre en place l'usager expert. C'est vraiment le lien entre la MDPH et la personne qui souhaite poser un dossier.
Parce qu'il y a aussi peut-être des différences selon les territoires. Quand on habite Saint-Étienne, c'est peut-être plus simple. Quand on habite à la campagne, un peu éloignée de toute zone administrative, déposer un dossier, ça peut être compliqué.
Oui, ça peut paraître compliqué. Aujourd'hui, voilà, ils ont conscience de pas mal de petites choses et ils veulent vraiment étendre au niveau du territoire pour plus de proximité.
Alors, quelle différence entre le comité d'usagers et les usagers experts?
Le comité usagers, c'est plus un groupe de travail qui va travailler sur des axes d'amélioration par rapport à la MDPH, comme par exemple pour plus de proximité pour les usagers.
Alors, d'une part, il y a ce comité qui travaille à un peu recenser les problèmes pour essayer de trouver des solutions, ensemble.
Ensemble, oui. Donc, la composition, il y aura quand même bien la présidente de la MDPH.
Bien sûr.
Il y aura le directeur. Il y aura des professionnels MDPH. Il y aura des usagers experts. Ça représentera le comité usager avec des facilitateurs, si besoin.
Ce qu'il faut dire, c'est en construction tout cela. Ça va se faire, c'est sûr, mais c'est en construction.
C'est en construction, oui, le comité usager comme l'usager expert.
Alors l'usager expert, lui, quelle différence par rapport au comité ?
L'usager expert, bah déjà, il va faire part de son expérience quand une personne va se présenter au niveau de l'accueil et qui va lui parler de son dossier, de ses inquiétudes qu'il a, de ses interrogations. Il sera vraiment là pour lui faire part de son parcours de vie, hein, tout simplement. Il sera impliqué dans l'échange avec la personne qui va être là.
Donc ça veut dire la rencontre non seulement d'un spécialiste administratif, mais aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un qui sait, j'allais dire dans sa chair, ce que c'est avec les difficultés, mais aussi sans doute les réponses qu'il ou elle a pu déjà apporter.
Oui, c'est ça. C'est vraiment faire part de son expérience et de relativiser aussi sur ce côté administratif.
Lorsque je vous ai eu au téléphone, j'ai senti que dans la démarche, ce que vous trouviez vraiment intéressant, c'était le fait qu'il y ait ce dialogue. Vous pouviez, vous, personne en situation de handicap, être consultée, partie prenante et même proposant des solutions.
Oui, moi je trouve ça très stimulant en fait. Moi je trouve ça très positif. Mes 40 ans d'expérience en fait de personnes en situation de handicap, aujourd'hui elle est valorisée. Moi je trouve ça super, super intéressant. Et on est sur de l'interdépendance au final, tout le monde est gagnant. Donc moi c'est vrai, ce côté interdépendance, j'y tiens beaucoup.
En même temps, c'est un engagement. Quand on est en situation de handicap, eh bien, on a sûrement un certain nombre de problèmes qui se rajoutent à d'autres du quotidien. Donc prendre de son temps à soi pour aller vers d'autres, c'est quelque chose qui demande peut-être un effort, mais je n'ai pas l'impression en vous entendant.
Non, non, parce que moi aujourd'hui, je suis dans cette dynamique où c'est plutôt porteur pour moi, donc... On valorise mon expérience, on va venir vers moi en disant « Émilie, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution par rapport à certaines thématiques ?» Bien sûr, je vais répondre présente. C'est sûr que quelquefois, je ne pourrais pas...
Oui, comme tout un chacun.
Mais comme tout un chacun. La MDPH, je connais très bien aussi bien cela, sûr. Donc il y a beaucoup de bienveillance. Donc je n'ai aucune inquiétude à ce sujet-là.
De l'enthousiasme donc autour de ce projet.
Oui, très enthousiaste. Je ne sais pas si ça s'entend à la radio, mais je suis très enthousiaste.
Si, ça s'entend.
De ces deux projets.
Depuis le 10 janvier 2022 a été lancée une unité mobile, la Maison de la Famille Itinérante. C'est un service ambulant qui permet aux habitants de la Loire de venir poser toutes leurs questions liées à la vie quotidienne ou encore d'être aidé d'un professionnel pour effectuer des démarches administratives. Mais êtes-vous éligible à ce service ? On brise tout de suite le suspense, la réponse est oui. C'est ainsi que l'UDAF de la Loire, l'Union départementale des associations familiales, présente sur son site le rôle des deux bus qui sillonnent le nord et le sud de notre département désormais. À leur bord, au moins deux agents de l'UDAF, un agent d'accueil et un catalyseur territorial et ou un conseiller numérique. Sandrine Jahan et catalyseur territorial chargé du bus de Loire Sud pour aller vers nos concitoyens. Lucas Laubert l'a rencontré au Bessa, à l'intérieur du bus.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
Alors la Maison de la Famille, c'est une structure de l'UDAF de la Loire qui est là pour représenter l'action familiale, pour aller à proximité des familles, c'est-à-dire en milieu rural ou sur des quartiers politiques de la ville, pour faire un premier accueil inconditionnel des familles, de toutes les familles, donc de 0 à 99 ans et même plus, pour aider les personnes à faire leur démarche administrative dans un premier lieu, les aider à faire des démarches au niveau numérique, mais aussi les orienter sur toutes les structures qui existent autour de chez elles.
Donc c'est ça, en fait, vous êtes vraiment, vous, un point de repère pour les rediriger ensuite vers des services qui pourront les aider et pour avoir un suivi ensuite.
C'est exactement ça, c'est un espace ressource, en fait, pour les orienter sur les structures du territoire, les associations, les partenaires qui travaillent avec nous.
Ce bus vous permet de vous déplacer dans pas mal de communes, comment c'est organisé ?
C'est une tournée, tout simplement, où on se déplace sur chaque lieu une fois par mois, en fait, sur des marchés, sur des petits villages comme le Bessa, où on est devant la mairie un jour d'ouverture de la poste, pour accueillir les personnes et les informer.
Donc comment ça se passe ? Les personnes viennent, si elles veulent ici, et elles sont accueillies pour avoir des conseils ?
Elles peuvent venir, c'est sans rendez-vous, en toute liberté, poser leurs questions, on peut les accompagner sur des démarches, les orienter sur les structures qui existent à proximité. Si elles n'ont pas de mobilité, on peut les accompagner directement à faire leur démarche et traiter la démarche en direct.
Ouais, vous avez vraiment un rôle polyvalent en fait, d'appui pour les personnes partout dans le département.
Oui, c'est aussi un outil qui est prêté aux associations du territoire, comme la mission locale en ce moment de Jiépila, qui utilise le bus pour aller repérer les invisibles sur leur secteur, en fait, et essayer de parler avec les jeunes, avec leurs familles, et repérer les jeunes qui sont en dehors des radars du département, en fait.
Ce bus, vous en avez deux, comment ça se passe au niveau logistique ?
On a deux tournées bien établies qui ont été faites avec le département et les directeurs de territoire du département sur 4 semaines, avec chaque lieu toutes les 4 semaines, sur différents territoires. Donc sur le sud dont je m'occupe, on va sur le territoire du Pilat, mais aussi de l'autre côté vers Saint-Éan, à Vézieux. Sur le secteur nord, on a Chalmazel, Renaison, voilà, c'est tout un tas de villages. Il me semble qu'il y a 31 communes en tout qui sont ciblées. Voilà.
C'est important d'aller vers les personnes pour leur proposer de l'aide, sinon ils n'iraient pas forcément vers les structures qui pourraient les aider d'elles-mêmes.
C'est super important parce qu'on se rend compte en fait en discutant avec les personnes qui viennent pour voir ce que c'est ce bus et ce qu'on y fait, ou en allant vers elles distribuer les flyers, on crée dans un premier lieu du lien en fait, beaucoup de liens. Et en discutant avec les personnes qui nous disent bah, c'est super ce que vous faites, moi j'ai pas particulièrement de besoin, on se rend compte qu'au bout de 5 minutes de discussion, et ben il y a une question qui arrive et puis une autre, et puis on parle de son voisin qui a tel problème, et puis petit à petit, et ben sur un lieu, la première fois on fait beaucoup de liens, la deuxième fois il y a des demandes qui arrivent, la troisième fois on est vraiment repéré. Et les personnes viennent des fois pour une petite question, toute simple, mais qui peut leur créer des problèmes à long terme, quoi.
C'est un moyen pour vous de vraiment se créer un maillage local, un ancrage au cœur des territoires ?
Complètement, c'est vraiment insister sur ce maillage, sur toutes les associations qui existent déjà et qui ont besoin de visibilité, c'est aider les personnes à pousser des portes, des fois les aider à prendre un premier rendez-vous dans une association ou dans une structure. Une fois que le contact est établi, la personne y retournera, mais c'est simplement, c'est ça, aider à pousser une porte, aider à faciliter, être facilitateur de l'accès aux structures qui existent.
Ce bus-là, il est en libre service, enfin, tout le monde peut venir pour avoir de l'aide, mais quelles sont les personnes quand même qui sont les plus aidées chez vous ?
C'est effectivement pour tout public. On a quand même une majorité de personnes, de seniors, qui viennent pour des questions liées aux démarches administratives en ligne, les aider à faire des démarches via France Connect. C'est pas forcément compliqué, mais pour un senior qui n'a pas l'habitude de manipuler un outil informatique, c'est très très important qu'on puisse l'aider, l'accompagner dans un premier temps. C'est pas forcément faire à sa place, c'est l'accompagner, lui montrer, le débloquer sur une situation et l'aider à lui redonner confiance pour faire ses démarches seul.
Et alors si on a envie maintenant de venir à ce camion, aujourd'hui on est au Bessa, mais le camion circule un peu partout dans la Loire, comment on peut faire pour savoir où est-ce qu'on peut retrouver le camion ?
Donc sur le site de l'UDAF, vous trouverez les dates des deux tournées, des deux camions sur le sud et sur le nord de la Loire. N'hésitez pas à venir nous voir, on recevra avec plaisir partenaires et usagers.
RCF.
Si le nom de l'entreprise Childéric ne vous dit rien, c'est certainement que vous ne faites pas de cheval. Car dans le monde équestre, il se dit souvent que c'est l'un des meilleurs fabricants de selles sur mesure en France et il se trouve à Vosges. Clément Bonsignor s'est rendu dans les ateliers de cette société trentenaire qui s'est baptisée elle-même Manufacture. Et vous allez comprendre pourquoi en suivant la visite des ateliers pour découvrir pas à pas la fabrication de leurs selles sur mesure. Une visite guidée par Guillaume Lancelot, chargé de communication de l'entreprise Childéric.
Loire Mag, le podcast au cœur de la vie de notre département de la Loire.
Alors en fait, déjà pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, toutes nos selles sont faites sur mesure et sur commande. On n'a pas de pré-production, on ne fait pas des selles en stock qu'on vend par la suite. Donc chaque commande va avoir ses spécificités de sur mesure pour le cheval et pour le cavalier. Et donc en fonction de ça, ça va répercuter sur la production des contraintes techniques, des formes, des matières différentes. Donc on reçoit les matières, on travaille 3 tanneries principalement. On reçoit les peaux ici. La première des étapes, c'est de faire la lecture de peaux. C'est-à-dire que les peaux sont sorties, mises à plat, et les artisans en charge de la coupe vont repérer tous les petits défauts. Ça peut être des griffures, des piqûres, ça peut être un cuir un peu, ce qu'on appelle un peu creux. En général, ça va être creux, c'est quand il y a des veines qui sont un peu dilatées ou des fibres qui sont moins denses, donc ça donne un cuir de bonne qualité. Et tous ces défauts-là, on les entoure, on les met de côté pour qu'ils ne soient pas pris dans les parties qui vont être coupées. Donc c'est une étape cruciale parce que si un des défauts va être pris dans le quartier ou le siège de la selle, ça va peut-être pas se voir au début, ça va faire une fragilité qui va vite ressortir quand le client va utiliser sa selle. Un arçon, c'est le squelette de la selle. C'est ce qui va lui donner sa tenue, ce qui va lui donner sa forme. Enfin, voilà. Donc la partie travail de l'arçon, elle se divise en 3 étapes. La première, c'est le travail du sanglage. Et on va venir sangler dessus avec des grandes sangles en nylon, un peu type ce qu'on voit pour les ceintures de sécurité. Donc c'est très résistant. On va venir sangler avec beaucoup de tension l'arçon pour lui donner sa forme, ce qu'on appelle la ligne de siège, qui fait le confort du cavalier. La ligne de siège, c'est le creux en fait, dans lequel le cavalier vient s'asseoir. Et on pourrait penser que c'est toujours la même chose. En fait, c'est vraiment précis de l'ordre du millimètre. Et il y a des clients, déjà par rapport à la taille de la selle, mais il y a des clients qui vont vouloir un siège peut-être avec un peu plus d'espace vers l'arrière. D'autres, ils vont vouloir quelque chose de plus plat. La deuxième étape, ça va être le travail de la mousse. Donc par-dessus ce sanglage, on va venir mettre différents types de mousse avec, encore une fois, leurs épaisseurs et leur densité, qui vont être ensuite poncés pour avoir une forme vraiment fluide. Et la troisième étape, c'est la tension de peau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cet arçon avec le sanglage et la mousse dessus, on va venir tremper dans des bains d'eau chaude les peaux de siège qui donc ont été coupées. On les laisse environ un quart d'heure dans l'eau bien chaude. Et après, on le sort de là et on va venir le tendre sur l'arçon. Alors, ça demande un peu de force parce que la tension est assez importante. Et avec des agrafes temporaires, on va le laisser sécher sur l'arçon avec la forme qu'il a obtenue. Donc le travail de ponçage dont je vous parlais, c'est ici. Il y a différentes, les bancs à poncer, les petites machines plus portatives. Et là, c'est pareil, beaucoup de précision qui est demandée parce que on est comme sur les autres éléments de la selle, de l'ordre du millimètre. Donc faut poncer, faut pas faire un petit creux dans la mousse, faut pas laisser une bosse. Donc ça demande, là encore une fois, un œil. C'est-à-dire que soit on a l'habitude d'avoir des process hyper automatisés. Ici, on ne peut pas se passer du savoir-faire de l'œil de l'artisan. C'est-à-dire que c'est lui, en passant sa main, en posant son œil sur le siège, il voit si le ponçage est bien exécuté ou pas.
Chaque personne qu'on voit ici, et il y en a une cinquantaine, je crois, chaque personne est maître dans l'art de faire ce qu'il fait.
Alors, c'est toute la spécificité de notre atelier. Donc, il y a une quarantaine d'artisans. C'est qu'on a des anciens qui ont un savoir-faire maîtrisé depuis des années. On a des plus jeunes qui arrivent récemment, même parfois d'ailleurs des moins jeunes qui sont arrivés récemment, des reconversions, et qu'on forme en interne. C'est-à-dire que certains ont déjà un CAP de sellier-harnacheur ou ce genre de formation. D'autres, en revanche, n'ont pas forcément l'expérience, mais on fait la formation parce qu'on a nos méthodes, parce qu'en plus de ça, c'est très compliqué de trouver aujourd'hui quelqu'un avec déjà l'expérience et la formation, donc on le fait nous-mêmes. Et c'est assez chouette parce que du coup, il y a un vrai lien entre les anciens et les plus jeunes. Et voilà, on arrive à créer un vrai lien. Ça, c'est sympa. Ouais. Je crois que la personne, la doyenne de l'atelier, doit avoir 26 ans, je crois, de maison, sachant que Childeric a été créé il y a 30 ans. Quand elle a commencé, il y avait, je crois, 6 personnes en tout dans l'entreprise, enfin à l'atelier. Et on est 40 aujourd'hui. C'est un peu la mémoire de l'entreprise. Ouais. Ça, c'est une selle pour une cavalière anglaise qui a une prothèse à la jambe gauche, donc qui a besoin d'être main nue. Elle n'a pas du tout cette capacité à se maintenir grâce à sa jambe à cheval à gauche. Et donc, on a fait ce que vous voyez là, ce gros taquet qui permet de vraiment de se caler et de se maintenir à cheval. L'autre côté est à peu près standard, même s'il y a beaucoup d'adaptations aussi. Et donc voilà, ça, il n'y a pas 2 selles comme ça dans le monde. C'est vraiment, vraiment unique.
Pour des sportifs de haut niveau aussi, on fait des selles ici?
Oui, absolument. On a des selles qu'on fait les Jeux Olympiques, dans les cavaliers qu'on équipe actuellement, donc Alexandre Ayajor, cavalier olympique de dressage, Karim Lagouag, qui est un cavalier olympique complet, qui regroupe les 3 disciplines, dressage, CSO et cross. On a des cavaliers de très haut niveau. Et puis, alors là, je vous ai cité les Français, on en a aussi en Angleterre, en Suisse, dans le monde entier.
Loire Mag, le podcast sur RCF. des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.